Dans leur série « Les chemins de l'histoire », Daniel et Jean Fleury vous proposent cette année, en 6 émissions, l'évocation des rapports entre la solidarité sociale et le monde protestant nîmois. Aujourd'hui, l'abeille nîmoise jusqu'à la Grande Guerre. Et c'est toujours Gustave Mahler qui nous accompagnera de sa deuxième symphonie.
Avec Édouard de Boive, Charles Gide participe activement à l'abeille nîmoise. S'intéressant aux problèmes concrets de gestion et de conflit avec le commerce privé, il met en pratique ses théories et théorise sa pratique. L'abeille nîmoise devient une coopérative importante qui absorbe la boulangerie, la Renaissance en 1892, ou d'autres associations, telles l'Association des Jeunes Amis de la Paix, parrainée par le pasteur Charles Babut, accueillie dès mars 1888 dans la salle de l'abeille nîmoise en première conférence publique. Mais avec la maigre subvention de 1000 francs, de l'Office ministériel du Travail, la trésorerie de cette coopérative demeure un souci permanent.
Capitalisme libéral et socialiste marxiste révolutionnaire commencent à s'affronter. Tandis qu'à Montpellier, des procès sont intentés contre les coopératives par des commerçants libéraux, en 1895, très critique depuis le début, les coopérateurs socialistes quittent l'Union coopérative et créent la Fédération coopérative socialiste. Gide commente. Entre notre socialisme coopératif et le socialisme collectiviste, même le plus sympathique, il restera toujours cette différence essentielle que le premier est facultatif et volontaire, tandis que le second est coercitif. Jean Jaurès s'efforcera de réunifier le mouvement coopératif.
En dehors de la coopération de consommation, De Boive s'intéresse aussi à la coopération de crédit. En mai 1895, à la tête du comité nîmois du Centre fédératif de crédit populaire, il organise à Nîmes le 7e congrès national de cette institution.
En 1897, grâce au financement personnel de De Boive et de ses amis, se développe la Laborieuse, gérée par Claude Gignoux, qui jusqu'à sa mort en 1931 imprimera à 3000 exemplaires l'Émancipation, journal d'économie politique et sociale, défenseur de toutes les causes humanitaires. Charles Gide y écrira 840 articles de 1886 à 1931. Et Auguste Favre y publie également plusieurs articles sur des sujets aussi variés que la concurrence asiatique et l'avenir des ouvriers européens, les gratte-ciels américains ou en 1903, les trusts et les combinaisons industrielles. Gignoux imprime également, dès 1897, de nombreux textes Dreyfusard, un an avant Zola, ainsi que plusieurs publications du groupe « La paix par le droit ». Le rayonnement de l'école de Nîmes contribue finalement à la création de nombreuses coopératives, notamment dans le midi de la France, où un élan associationniste se développe dans le monde agricole. Coopératives, mutuelles et crédits mutuels vont apparaître. La première CAF coopérative se crée à Marozan en 1907. En 1900, la France comptait près de 250 coopératives de production et 500 en 1910, représentant 20 000 sociétaires.
Nommé à Paris en 1898 à la faculté de droit, Gide s'y installe définitivement. Dreyfusard, il participe à la Ligue des droits de l'homme et à l'École des hautes études sociales, fondée en 1899, et où il côtoie Émile Durkheim, Auguste Comte, et Léon Bourgeois. Il s'implique également dans le mouvement des universités populaires. En 1900, Gide tente en vain d'installer une fédération générale et centrale d'achat et de production semblable au Wolesal anglais. Le Congrès de l'Union préfère maintenir des structures régionales.
Et c'est là qu'on assiste au retour de l'État. En cette fin de XIXe siècle, les conditions économiques et sociales évoluent, car l'industrialisation génère un prolétariat qui revendique de meilleures conditions de travail et de salaire. Le syndicalisme se développe. La CGT se crée entre 1895 et 1906. Cette situation nouvelle pousse l'État à intervenir dans le domaine social jusqu'à présent géré par le patronat. Rappelons qu'en 1883, Bismarck avait mis en place en Allemagne un régime d'assurance sociale obligatoire. Une législation française du travail s'élabore donc progressivement avec le développement d'une certaine protection sociale substituée à l'assistance religieuse ou morale.
En 1892, on réglemente la journée de travail pour les femmes et les enfants. 1893, loi sur l'hygiène et la sécurité et assistance médicale gratuite pour tout citoyen malade et indigent.
1894, système obligatoire de retraite pour les mineurs. 1898, loi sur les accidents du travail et journée hebdomadaire de repos. De fait, cette loi encourage aussi l'employeur à s'assurer auprès d'assurances de droit privé à but lucratif pour faire face aux demandes d'indemnisation. Le radical Léon Bourgeois est l'instigateur d'une charte de la mutualité du 1er avril 1898 pour développer cette institution dans le monde ouvrier.
Les mutuelles sont libérées du contrôle de l'administration et même encouragées. Il faut faire comprendre aux travailleurs les bienfaits de la prévoyance individuelle fécondée par l'association, où l'individu n'abdique rien de sa personnalité, mais puise dans la collectivité de l'effort une force nouvelle, tout en retirant de l'association des avantages proportionnels aux charges qui lui incombent. L'intervention de l'État ne doit se produire qu'après, pour majorer la prime.
On fonde donc les principes du mutualisme privé, volontaire, avec la possibilité pour les mutuelles privées, plus ou moins subventionnées par l'État, de verser des allocations de chômage, des pensions de retraite, de formation professionnelle et même d'assurance vie. C'est surtout la petite bourgeoisie qui va en bénéficier. Les cotisations demeurent trop élevées pour les ouvriers. Un sénateur conservateur déclare alors « Chaque fois qu'un ouvrier entre dans nos sociétés de secours mutuels, c'est un soldat de moins pour la Révolution. C'est créé par l'épargne une nouvelle classe de petits capitalistes. » De Boives, comme Gide, demeure méfiant. Et Gide défend toujours le mouvement coopératif à l'occasion de l'exposition universelle de 1900, dont Auguste Favre est membre organisateur et qui comprend un pavillon de l'économie sociale.
En réalité, De Boives comme Gide demeurent fidèles à leurs racines protestantes. Charles Gide souligne la valeur religieuse de cette école nouvelle, fondée sur la solidarité exprimée dans les épîtres pauliniennes, tandis que De Boives devient président en 1889 de l'Association protestante pour l'étude pratique des questions sociales du pasteur Fallot, avec Gide comme vice-président.
Il est également vice-président de la Maison de santé protestante évangélique en 1894, puis président en 1900. Il y fait d'ailleurs aménager une chapelle en 1895, l'agrandit, la dote d'un nouveau statut en 1903 et relance son école de garde-malade. Mais il est aussi vice-président du diaconat. Il propose en 1901 que celui-ci prête de l'argent aux pauvres, sans intérêt, pour acheter des outils de travail. Ce sera un échec.
Émile Combes écrit au préfet du Gard. Le Conseil d'État fait remarquer que le Conseil presbytéral de l'ERN pour régulariser son budget et sa situation, doit faire disparaître de sa caisse les fonds affectés aux pauvres et pourrait employer un moyen qui consisterait dans la création d'un établissement charitable distinct appartenant à une association qui, d'après une déclaration régulière, jouirait de la capacité juridique dans les limites prévues par la loi du 1er juillet 1901 et remplirait l'office auquel était primitivement affecté le diaconat. Le RN crée donc l'Association protestante d'assistance le 22 décembre 1904 et De Boive démissionne, remplacé par Albert Donnedieu de Vabre. La grande affaire de cette période est en effet l'élaboration de la loi sur les associations. Celle-ci était interdite à plus de 20 personnes et durement réprimée depuis 1810. Pourvu qu'elle ne constitue pas de menace pour l'ordre public, la loi Olivier assouplit ses mesures en 1864, rendant inadapté le régime répressif.
Et puis en 1899, Waldeck Rousseau, président du Conseil, mais aussi ministre de l'Intérieur et des Cultes, soutient la loi du 1er juillet 1901. La liberté d'association sans autorisation préalable est acquise, sauf pour les congrégations religieuses que l'on veut toujours soumettre à autorisation dans le cadre du concordat. On se contente de créer des associations cultuelles dont on limite la capacité à posséder des biens fonciers, mesure qui affecte surtout les organisations catholiques.
L'État commence à prendre en charge la protection sociale et crée en juin 1904 le service départemental d'aide sociale à l'enfance, ainsi qu'un dispositif d'assistance aux personnes âgées infirmes et incurables en juillet 1905. À partir de cette même année, la Caisse des dépôts participe au financement de la construction du logement social, activité qui devient l'un de ses axes prioritaires.
Et puis finalement, la loi de décembre 1905 abroge enfin le concordat. Les églises ne dépendent plus de l'État, qui assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes, mais ne les subventionne plus.
De Boive réduit alors son activité pour se consacrer surtout à l'Association protestante pour l'étude pratique des questions sociales. À Nantes, en 1904, avec le concours de M. Charles Gide, il en a présidé le congrès et Fabre a animé une causerie sur la coopération en Angleterre avec projection de clichés photographiques collectés dans les différentes coopératives de France.
Mais le mouvement coopératif demeure toujours scindé entre la Bourse des coopératives socialistes et les coopérateurs de l'Union, dont Gide est président depuis 1902. bien qu'avec le même nombre de coopératives, la bourse socialiste a un chiffre d'affaires 5 fois plus important que celui de l'Union. Le regroupement semble plus que jamais nécessaire face à la concurrence de nouveaux grands magasins succursalistes comme les Docks Rémois ou Casino, qui ont un entrepôt central dirigeant des marchandises bon marché vers la clientèle populaire des coopérateurs.
Pour marginaliser les guédistes qui méprisaient la coopération comme imprégnée de capitalisme, Jaurès parvient à unifier la majorité des socialistes dans la section française de l'Internationale ouvrière en 1905, ce qui lui permet de se rapprocher du mouvement coopératif.
Citons-le, la coopération est à ce point de vue une admirable école d'éducation sociale. Et c'est la seule qui soit, présentement, à la portée du salarié. Jaurès précise même, pour être sociétaire coopérateur, il faut être socialiste. Il ne suffit pas que la coopération devienne socialiste, il faut que le socialisme devienne coopérateur. Lorsque 3 actions sont aussi essentielles que le sont l'action syndicale, l'action coopérative et l'action parlementaire, il est vain de régler entre elles un ordre de cérémonie. Il faut les utiliser, toutes les 3, au maximum.
Grâce donc à la double initiative de Jean Jaurès et de Charles Gide, la réunification indispensable du mouvement coopératif face à l'organisation capitaliste de la distribution devient possible. Elle se fera en décembre 1912 sur la base d'une indépendance à l'égard de la SFIO et réunira 1000 sociétés au sein de la Fédération nationale des coopératives de consommation, dont Gide rédige le pacte d'unité avant d'être élu au comité central de l'Union coopérative, mais minoritaire et avec des rôles surtout honorifiques.
Veuf en 1909, De Boives confirme dans un article sur la vraie coopération sa pleine adhésion à la coopération rothschildienne et aux thèses de Charles Gide, qui lui publie avec Charles Rist une histoire des doctrines économiques depuis les physiocrates jusqu'à nos jours. Un ouvrage de référence, traduit en 9 langues. En janvier 1908, a été fondée à Paris la Fédération nationale des sociétés coopératives d'habitation à bon marché. Il y en aura 437 en 1940. Après la Première Guerre, constatant qu'une partie de la population ne dispose pas des ressources suffisantes pour se loger décemment, Georgia Knapp invente une technique de préfabrication, c'est le béton banché, et substitue à l'apport financier de l'accédant son apport sous forme de travail. Cette expérience des cottages sociaux de l'entre-deux-guerres est favorisée par la loi Loucheur de 1928 qui élargit le rôle de la Caisse des dépôts. Les particuliers peuvent maintenant emprunter à taux réduit afin d'acheter un terrain et d'y faire construire un pavillon. En région lyonnaise, 22 groupes construisent ainsi plus de 1000 maisons suivant ce principe coopératif mutualiste.
L'État s'implique davantage dans la protection sociale. Un premier système d'assurance vieillesse devient obligatoire pour les salariés en avril 1910, mais avec des retraites basses et un âge de retraite, 65 ans, très élevé pour l'espérance de vie des ouvriers d'alors. Si bien que la loi renonce finalement à la rendre obligatoire et que l'État social en France devra plus à la Grande Guerre qui a renforcé le rôle de l'État pour prendre soin, mais aussi contrôler la population, qu'à la bienveillance parlementaire.
Durant la guerre, pacifiste mais aussi patriote, De Boives se décourage face à la lenteur des progrès du mouvement coopératif en France. Se méfiant de l'internationalisme socialiste et de la montée du communisme après 1918, il cède peu à peu la place à Charles Gide. Gide, dont l'un des fils est tué le 6 juillet 1915 aux tranchées et l'autre gravement blessé, devient alors l'un des animateurs de la Société d'études critiques et documentaires sur la guerre, d'orientation nettement pacifiste.